RVM, oh, RVM, Radio Vie Meilleure, RVM, RVM. Un grand salut à toutes ces personnes qui nous ont choisi, qui ont choisi Radio Vie Meilleure. Comme je vous le disais, nous avons la joie d'avoir deux hommes avec nous ce matin. Nous sommes des gens gâtés. Nous allons commencer par le lieutenant-colonel Bruy-Déguillon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, monsieur Muselec de Météo France. Bonjour.
Bonjour.
Merci, messieurs, d'être avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons de cette thématique. Nous parlerons de risques cycloniques. Mais nous allons débuter par la présentation des différentes structures. Alors, on va commencer par vous, monsieur Muselec. Quand on parle Météo France, on pense à celui, ce Superman qui va dans les airs récupérer les différentes informations. Êtes-vous un Superman ou...
J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne pense pas l'être. Non, donc moi, je suis le responsable du service de prévision en Météo France en Guadeloupe. Donc, notre centre est situé près de l'aéroport, Aérogare Sud, donc Orizé. Et entre autres activités, on est chargé de la climatologie, c'est-à-dire du temps passé, de la collecte des données. On est également, on a tout un réseau de données dont il faut assurer la maintenance. Donc on a des équipes qui sont chargées de le faire. Et puis la finalité quand même des services de la météorologie, c'est d'assurer les prévisions. Donc on a un service qui est en charge de faire les prévisions. Donc armé pour assurer une permanence H24, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année, pour faire un suivi de la situation, réaliser des bulletins de prévision, et puis également des bulletins d'alerte lorsque les situations présentent un enjeu.
Très bien, on parlera d'ici un instant. Alors, pour toutes ces personnes qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne, comment avoir ces différentes informations, comment dire, demain on aura un temps magnifique, sur quoi vous vous basez, comment ça se passe ?
Alors, question technique déjà. Alors, comment on travaille, comment on fait des prévisions ? Alors, les prévisions sont basées sur la simulation du temps qui se fait à partir de ce qu'on appelle des modèles numériques. Alors, les modèles numériques, c'est quoi ? C'est un programme extrêmement complexe. Qui est basé déjà sur la connaissance que l'on a du temps qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin du réseau le plus vaste possible, du réseau d'observation. Donc, on fait des mesures, on fait des relevés. Et on a des relevés en mer, on a des relevés également sur terre. On a surtout des relevés en altitude. Grâce aux nombreux satellites qui nous donnent maintenant une richesse d'informations très importante. Et toutes ces données qui mesurent l'état de l'atmosphère vont permettre à ces programmes de connaître le temps qu'il fait. Alors, ce n'est pas une connaissance exacte, parce qu'on n'a pas des mesures partout, à n'importe quel
tout
point
à fait
de l'atmosphère.
Voilà.
C'est une connaissance un petit peu imparfaite, incomplète. Mais néanmoins, grâce aux techniques qui continuent de s'améliorer, de s'enrichir, ça sert de temps zéro aux prévisions que l'on fait à partir de ces programmes extrêmement complexes. Mmh. Et donc, à partir de là... on a une simulation du temps qu'il va faire pour les prochains jours.
Très bien, voilà. Là, on vous remercie pleinement pour ces premières questions. Monsieur Guillaume, on se tourne vers vous, lieutenant-colonel du S10. Alors, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler du S10. C'est quoi vraiment le S10 ?
Alors, le S10, déjà, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers. Donc, ce sont aussi les centres de secours, les sapeurs-pompiers qui vont sur les différentes interventions que l'on peut faire sur toute la voie publique et puis partout en Guadeloupe. On intervient donc bien entendu sur ce que tout le monde connaît, donc les incendies pour ce qui est des sapeurs-pompiers, mais bien entendu, il faut savoir que nos interventions pour les incendies, en fait, au niveau du département, ne représentent que 7,5% des interventions. En fait, le maximum de nos interventions, c'est tout ce qui concerne le secours à personne, donc le malade à domicile, quelqu'un qui fait un malaise à domicile ou sur la voie publique, les noyades en mer, etc. Donc là, c'est le gros de nos interventions. Pour cela, on en fait, enfin, ça représente quand même 32 000 interventions sur l'année 2015. Et bien sûr, répartis sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Très bien, parce qu'en général, quand on parle de sapeurs-pompiers, on voit le feu, mais là, vous nous dites que vraiment, vos différents intervenants, sont très étendus.
Oui, bien sûr. On n'intervient pas uniquement pour le feu, comme je vous dis. Le feu, c'est notre premier... Enfin, c'est ce pourquoi on s'entraîne, effectivement. Mm-hmm. Mais la majorité de nos interventions, c'est le secours à personne.
D'accord.
Alors, bien entendu, quand je dis secours à personne, ça n'inclut pas, bien entendu, les accidents de circulation qui sont, elles, le secours routier.
On va profiter de cette partie-là pour avoir des chiffres concernant vos différentes interventions routières. On peut avoir des chiffres concernant cette partie-là.
Oui, alors, pour un ordre d'idée, en fait, en 2015, le SDIS a effectué environ 43 000 les interventions. Mm-hmm. Sur ce qui est donc le secours routier, nous en avons fait 3450, donc ce qui représente environ 8,5% des interventions du SDIS. Pour ce qui est du secours à personne, donc le gros de nos interventions, nous en avons fait 32 800. Donc, ce qui représente environ 81% des interventions du SDIS. Et pour ce qui est du feu, donc des incendies, on en a fait 2957, ce qui représente 7,5% des interventions.
Mm-hmm.
Donc oui, une grosse, comme vous pouvez le voir, donc une grosse activité sur le secours à personne, mm-hmm, en priorité.
D'autres reviennent avec des médailles.
Oui, tout à fait. Oui, donc c'est déroulé à Besançon, donc la finale nationale donc des sapeurs-pompiers, donc où le SDIS donc de la Guadeloupe a été titré à 4 reprises. Nous avons 4 champions, donc que je tiens d'ailleurs à féliciter. Donc au parcours sportif, donc qui est donc un petit peu le parcours du combattant des sapeurs-pompiers, nous avons donc en senior donc le sergent Apatou, qui donc est champion de France, et en vétérante, nous avons donc le caporal Beaujour, donc Roselyse, donc une fille. Hein. En grimpé de corde, donc nous avons en vétéran, nous avons donc le sergent chef. Alors je me trompe peut-être sur les grades parce que je ne connais pas. Je vais peut-être oublier les grades de certains.
Je m'en excuse tout de suite.
Je ne voudrais pas vexer ces personnes. Donc Brut Olivier qui a fait donc champion de France au grimpé de corde. Donc il faut en fait grimper une corde lisse le plus rapidement possible, donc voilà, de 5 mètres de haut, et donc il l'a fait dans les 3 secondes pour ces 5 mètres. Nous avons aussi au lancer de poids en vétéran, donc le sapeur Nimus Mas, qui est donc une femme également, qui a fait un G, enfin j'ai plus la distance en mémoire, mais elle est championne de France pour la 3e année consécutive.
En tout cas, félicitations à ces 4 champions. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, nous disons qu'au préalable, nous parlerons de risques cycloniques. Nous allons de suite nous diriger à nouveau vers vous, Monsieur Muselec. Alors, quand on parle de risques cycloniques, bien sûr, on pense à cyclone. Est-ce qu'on peut rappeler la période cyclonique et en quoi ça consiste vraiment ?
Oui, alors le risque cyclonique est présent à partir du 1er juin jusqu'au 30 octobre. Alors ça, c'est la période traditionnelle où on a le plus de chances de rencontrer des phénomènes tropicaux, même s'il y a quand même 2 mois privilégiés pour la formation de ces phénomènes, et ces 2 mois, c'est août et septembre. Mmh. Donc c'est là que les conditions sont les plus propices pour la formation de ces phénomènes. Ceci dit, on peut très bien avoir des phénomènes en dehors de cette période. Et c'est ce qu'on a eu cette année. Cette année, on a eu un phénomène au mois de janvier. Donc c'est un phénomène complètement atypique, mm-hmm, malgré tout, qui a réussi à atteindre le stade d'ouragan. Et je crois que c'est la première fois que... En plein hiver, donc c'était au mois de janvier, un phénomène avec une composante tropicale réussit à atteindre le stade d'ouragan. C'est pas un ouragan qui s'est formé selon les lois traditionnelles, mm-hmm, puisqu'il s'est formé au large de la Floride, donc pas forcément dans des eaux très chaudes, et les eaux chaudes, c'est quand même l'élément premier pour la formation de ces phénomènes.
Et à quoi c'est dû ?
Il y avait en fait certes de l'air chaud, mais il y a eu également des conditions un petit peu extratropicales liées un petit peu aux conditions hivernales. mais la mise en phase de ces deux... de ces deux précurseurs, si vous voulez, a réussi à ce que ce phénomène prenne une ampleur qui a atteint, au niveau de la force des vents, le stade d'ouragan. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et depuis, on a eu également déjà 4 phénomènes qui ont été baptisés. Donc vous voyez que même en dehors de cette période phare 1er juin, 30 octobre, on peut très bien être confronté à un phénomène cyclonique.
Vous parlez tout à l'heure de baptême. Le baptême se fait à quel moment ?
Alors, les phénomènes tropicaux, donc qui ont une structure dépressionnaire, donc réussissent à évoluer et à atteindre différents stades. Alors, lorsque une petite dépression commence à se former, en général, ça se forme au niveau de l'Atlantique tropical, entre le Cap-Vert et puis les Antilles. Lorsqu'il y a une petite formation tourbillonnaire, avec des conditions qui sont favorables pour que le phénomène s'intensifie, on est donc au premier stade de ces phénomènes tropicaux. Et on est en présence de ce qu'on appelle une dépression tropicale. Alors, tant que les vents maximum moyens que l'on rencontre avec ce phénomène ne dépassent pas les 60 km/h, on est en présence d'une dépression tropicale. Alors, si les conditions sont favorables pour que ce phénomène prenne de l'ampleur, et si les vents maximum moyens au sein de ce phénomène vont dépasser les 60 km/h, pour rester en dessous de 120 km/h, on est en présence de ce qu'on appelle une tempête tropicale. Alors, la tempête tropicale, c'est le stade à partir duquel on lui donne un nom.
D'accord.
Donc un nom, donc Alex, c'est le premier nom qui a été donné cette année, là, pour l'année 2016, au premier phénomène que j'évoquais là, au mois de janvier.
Oui.
Erika, c'est un phénomène de 2015 qui a dévasté, qui a causé beaucoup de dégâts sur la Dominique l'an dernier. Voilà, donc c'est un nom qui est attribué à ce stade de tempête tropicale, et ce nom, il est donné par le Centre national des cyclones qui est basé à Miami, en Floride, donc aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et puis lorsque les vents dépasse les 120 km/h, donc là le phénomène s'est encore accentué et activé. Lorsque les vents donc dépassent 120 km/h, on est en présence de ce qu'on appelle là un véritable ouragan. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement dévastateur. Et puis parmi ces ouragans, on a été amené également à donner une classification, parce que entre un ouragan qui ne donne que entre guillemets 120 km/h en force des vents, et un ouragan dont les vents dépassent les 250 km/h, on a été amené à attribuer une classification. C'est ce qu'on appelle la classification de Saffir-Simpson, qui va de 1 à 5.
Mm-hmm.
Alors retenez que les ouragans de catégorie 3, 4 et 5, 3, ce sont des vents qui dépassent les 180 km/h. Donc catégorie 3, 4 et 5, c'est ce qu'on appelle les ouragans majeurs, qui sont extrêmement dévastateurs.
Très bien, voilà. Et vous, monsieur Bouillet Guillaume, je suppose que vous êtes comme tous les différents auditeurs. Quand monsieur Météo France nous donne ces différentes informations, vous êtes aussi en alerte ? Comment ça se passe de votre côté ?
Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, nous sommes en lien direct toujours avec la préfecture, donc comme Météo France, d'ailleurs, pour mettre en place ces différentes alertes.
Mm-hmm.
Et donc, donc à partir donc du mois de juin là, dernièrement, on a mis en place donc ce qu'on appelle notre plan cyclonique au niveau du SDIS, et donc a été transmis à tous les centres de secours donc ces différents plans, pour des rappels donc au niveau des agents, où donc à chaque phase donc de vigilance cyclonique, il y a un différent type d'intervention. Enfin, pas d'intervention, mais de préparation à faire.
Genre
rappel des agents, préparation des agents pour leur famille aussi. C'est-à-dire que bon, ben, si on sait que bon, on va arriver sur le rouge, on est à l'orange, on va arriver sur le rouge, eh bien, on libère certains agents pour qu'ils Enfin, il y a un cycle qui s'est fait pour qu'ils aillent mettre à l'abri leur famille, pour qu'ils soient sûrs, qu'ils soient en sécurité, pour qu'eux puissent intervenir en toute bonne conscience, sans penser à la famille, entre autres. Et bien sûr, il y a les pleins de carburant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différentes étapes à faire pour se préparer au passage du cyclone.
D'accord. Alors, Monsieur Muzolek, est-ce qu'on peut parler des différents moyens d'alerte ?
Donc, on a une procédure, effectivement, d'alerte, une procédure qui rentre dans le cadre de notre système de vigilance, qui est basé sur un code de couleur.
Oui.
Donc, tout au long de l'année, on a, grâce à ce code de couleur, cette procédure de vigilance, on alerte la population de tous les dangers météorologiques. Alors, il n'y a pas que les cyclones qui rentrent dans ce moyen d'alerte. Il y a les fortes précipitations, il y a les mers dangereuses à la côte, et puis les vents forts. Et puis, bien sûr, il y a ce phénomène qui est le plus dévastateur, qui est en fait le phénomène tropical. Donc, on utilise donc pour cela donc cette procédure de vigilance avec un code de couleur qui, je pense maintenant, est bien connu de la population.
On peut quand même rappeler.
Alors, voilà. Donc, la couleur, là, je parle du phénomène cyclonique, hein, puisque c'est le sujet de l'émission. La couleur dépend, en fait, de la distance du phénomène à notre archipel, ou en d'autres termes, si vous voulez, du temps qu'il lui reste à parcourir pour arriver jusqu'à nous. Donc, lorsque on pense qu'il y a une menace due à un phénomène cyclonique dans les 72 heures, on met le niveau jaune de la vigilance cyclonique. On va dire qu'on... Enfin, c'est pas qu'on met, hein, nous... Météo France, nous sommes, si vous voulez, les conseillers techniques sur le risque cyclonique au préfet. C'est le préfet qui prend la décision du passage à telle ou telle couleur. Mm-hmm. Donc nous lui faisons des propositions. Donc, le niveau jaune, c'est une menace dans les 72 heures. Lorsque cette menace se précise et que le phénomène s'approche, on va passer à l'orange. Ensuite, lorsque le phénomène commence vraiment à se confirmer, et là, on est à moins de 12 heures de l'approche du phénomène, 12 ou 18 heures, on passe au niveau rouge. Et lorsque le phénomène est en menace d'arriver sur l'archipel, on passe au niveau violet. Niveau violet qui consiste à dire à la population, restez chez vous, confinez-vous. Le phénomène est pratiquement en passe d'arriver. Et une fois que le phénomène est passé, on a un niveau gris là, qui relève des services préfectoraux. Niveau gris qui indique que le phénomène, il est passé, il s'éloigne, il a occasionné beaucoup de dégâts, mais il faut encore être très vigilant et laisser le temps aux services communaux, préfectoraux, de remettre un petit peu la situation à la normale. Voilà un petit peu les différents codes couleurs relatifs au risque cyclonique.
Très bien. Monsieur Guillaume, alors de votre côté, comment ça se passe ? On l'a déjà dit, vous êtes quasiment en contact, en collaboration avec le préfet, bien sûr, Météo France, concernant l'évolution du phénomène. Alors, plus celui-ci s'approche et plus vos hommes sont prêts à intervenir à n'importe quel moment, c'est ça ?
Plus, non, dès que la saison commence, en fait, tout au long de l'année, on s'entraîne, bien sûr, pour cela. On n'est jamais assez préparé. Il faut savoir que, donc, déjà, dernièrement, au mois de juin, il y a eu un exercice cyclonique qui s'est fait en préfecture, qui a été organisé par la préfecture, pardon, et qui s'est fait, donc, au niveau, donc, de certaines communes. Donc, il faut savoir que, nous, on se prépare au passage d'un cyclone, donc en s'entraînant bien sûr, mais également en préparant nos centres. Déjà, donc il faut qu'on prépare, c'est-à-dire qu'il faut que lorsque le cyclone va passer sur le département, il faut que nos agents et nos matériels soient aussi à l'abri. Donc depuis un mois ou deux, on fait un état des lieux. Donc, on fait un état des lieux de nos différents centres pour savoir ce qu'il faut préparer, ce qu'il faut réparer en cas de passage d'un cyclone. On fait des réserves comme un peu ce qu'on préconise à tout le monde, des réserves d'eau, on fait des réserves alimentaires. Et au fur et à mesure qu'on passe vraiment là maintenant dans une phase cyclonique où là il y a vraiment un cyclone qui est annoncé, qui va se rapprocher du département et qui risque de passer sur le département.
Oui.
À ce moment-là, effectivement, on rappelle, donc, comme je le disais tout à l'heure, on rappelle certaines personnes. Donc à la garde, on complète tous nos effectifs.
Mm-hmm.
À la rigueur, même des fois, si c'est vraiment annoncé et qu'il risque d'y avoir un passage sur les îles du Nord ou bien même sur les îles du Sud, ben on envoie du personnel en renfort à l'avance. Parce qu'il faut savoir quand même qu'eux, ils ont la double autonomie, double insularité. Ils sont en effectif moindre que sur la Guadeloupe.
Mm-hmm.
Donc plutôt que d'attendre que le passage du cyclone et après une remise en état des pistes ou de la navigation pour aller sur ces îles, eh bien, on envoie au préalable. Là, c'est vraiment quand on a confirmation, mais on l'a déjà fait. On a déjà envoyé du monde en avance à Saint-Martin,
mm-hmm.
En cas de passage d'un cyclone sur les îles du Nord. Saint-Martin, Saint-Martin. Donc ça, c'est la préparation au niveau des centres. Mais il faut savoir que l'organisation maintenant au niveau du département, pareil, lorsque donc un cyclone est annoncé, il y a donc le COD qui s'active en préfecture.
COD, on va rappeler pour...
Donc le centre opérationnel départemental, donc il y a la préfecture. Il faut mmh. savoir que le passage d'un cyclone majeur ou d'un cyclone sur le département, ça va occasionner de nombreux dégâts. Donc on va partir d'une situation de chaos pour où tout est désorganisé pour arriver sur une situation organisée. Donc pour cela, il faut avoir un maximum de remontées d'informations en un seul point. Ce point, donc, c'est l'outil de travail du préfet, qui est le COD, où sont rassemblées donc les différentes forces vives, donc la police, la gendarmerie, Météo France, les sapeurs-pompiers, bien sûr,
mm-hmm.
Le conseil général, le conseil régional, enfin des représentants de chaque grosse collectivité et service de secours et de sécurité. Donc là, les décisions se prennent. Donc toutes les remontées se font vers ce point-là. Donc par les centres par le SDIS, par le CODIS, parce que nous aussi on a un centre opérationnel départemental au niveau du SDIS.
Mm-hmm.
Donc notre centre opérationnel départemental lui récolte toutes les informations des centres de secours, qu'il envoie vers le COD, les PC communaux, puisqu'il y a des PC communaux qui sont organisés, dans lesquels aussi il y a des sapeurs-pompiers, puisque dès qu'on sait qu'il va y avoir un passage de cyclone, on envoie aussi dans les PC communaux donc des agents.
Mmh.
Donc les PC communaux envoient aussi vers le COD leurs besoins, les dégâts qu'il y a sur leur commune. Les gendarmes font la même chose, les policiers font la même chose, le département, la région, enfin un peu tout le monde fait la même chose. Et c'est de là que sera décidé au niveau du COD les actions prioritaires, les demandes de renfort, c'est-à-dire dès le passage, on sait que c'est majeur, il y a beaucoup de dégâts. On est directement en liaison avec le préfet est directement en liaison avec le ministère de l'Intérieur et fait des demandes de renfort et de manière à ce que ça arrive le plus rapidement possible.
Très bien.
Donc ça, c'est toute l'organisation au niveau du département. Ensuite, on reçoit bien sûr toujours les appels au niveau du 18, donc au CTA, CODIS. Donc le CTA, c'est le centre de traitement d'alerte donc des sapeurs-pompiers. Et on traite en priorité, parce qu'à partir du moment où on a un cyclone majeur qui passe donc sur la Guadeloupe, comme on l'a dit, il y a des dégâts importants. On n'a pas moyen d'intervenir partout. Donc maintenant, c'est mettre en place des priorités. Avec l'aide donc des PC communaux, avec l'aide du COD, savoir qu'est-ce qu'on traite en priorité et au fur et à mesure sortir de cette situation de chaos pour arriver sur une situation organisée.
Très bien. Voilà. Lucien Nestan, on donnera plus d'informations aux auditeurs. On va être pratique, si vous êtes d'accord, de manière à ce que toutes ces personnes qui sont là puissent savoir, justement, même si des fois on sait, mais des fois on peut oublier, quels sont les actes à poser dans telle ou telle situation. Quand vous parliez tout à l'heure, monsieur Muzelec, de différentes couleurs, les codes de couleurs, souvent, je pense plutôt aux anciens qui ont du mal avec différents codes. Nous en reviendrons d'ici un instant. Alors, s'il fallait vous poser cette question, qu'en a-t-il de notre paysage cyclonique cette année-ci, en 2016?
Alors, pour 2016, à quoi doit-on s'attendre? alors, Avant de donner des chiffres oui. pour 2016, je vais déjà dire qu'est-ce que c'est qu'une une année moyenne, c'est-à-dire je vais donner les chiffres moyens, si vous voulez, quoi, hein, basés sur, sur la moyenne de ce qu'on observe au cours des 30 dernières années. Donc, en moyenne, on a observé au cours des 30 dernières années 12 phénomènes. Alors là, je parle à l'échelle de... du bassin atlantique. Hein, je ne parle pas à l'échelle de la Guadeloupe.
Guadeloupe, d'accord.
Donc, à l'échelle du bassin atlantique, on observe en moyenne 12 phénomènes nommés, d'accord, donc qui ont atteint le stade donc, de tempête tropicale, comme on a dit tout à l'heure. Parmi ces 12 phénomènes, en moyenne, 6, donc la moitié, réussissent à atteindre le stade d'ouragan. Et parmi ces 6, 3 deviennent, en moyenne, un ouragan majeur. Voilà, ça c'est donc les statistiques hein, sur les dernières années, donc sur les trois dernières décennies. Alors pour 2016, on annonce une année avec des chiffres qui sont légèrement au-dessus de ce que je viens de vous annoncer. Donc ça veut dire que on a, pour 2016, théoriquement, c'est une année qui est légèrement supérieure à la normale en termes d'activité.
D'accord.
Alors, bon, les chiffres annoncés, c'est... Allez, 13 à 15 phénomènes nommés. Pour rappel, hein, il y en a déjà eu 4 qui ont été nommés. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il resterait encore 10 phénomènes peut-être à se former pour cette année. Donc parmi ces 13 à 15, on pense que allez, 6 à 7, voire 8 pourraient atteindre le stade d'ouragan. Et parmi ceux-là, les 3 à 4 peut-être, ouragans majeurs. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont légèrement supérieurs à la normale. Alors pourquoi on prévoit une année légèrement supérieure à la normale ? Parce que l'activité cyclonique dans le bassin atlantique dépend de différentes conditions, et en particulier de ce qu'on appelle l'état de l'oscillation australe. Oscillation australe, qui est un phénomène de très grande ampleur qui intéresse le Pacifique. Alors, en quoi le Pacifique peut avoir des interactions sur l'Atlantique ? Ben, le Pacifique, c'est un océan qui est tellement vaste que lorsqu'il y a des dérèglements qui sont observés en son sein, eh ben, il y a des répercussions sur pratiquement l'ensemble de la planète. Et en particulier, donc des répercussions sur... les conditions de formation des phénomènes cycloniques dans le bassin atlantique. Alors, effectivement, les deux dernières années, on était en présence d'une phase qu'on appelle El Niño, qui est plutôt défavorable pour la formation des phénomènes cycloniques dans le bassin atlantique. El Niño, alors qu'il est terminé, et on est en train même de basculer vers la phase inverse que l'on appelle... La Niña. Et la Niña, donc, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et la Niña, c'est un phénomène qui est plutôt favorable pour la formation des phénomènes cycloniques dans le bassin atlantique. Bon, alors, donc ça, c'est un élément, effectivement, qui laisse penser que la saison sera un peu plus active que la normale. Mais pourquoi un peu plus active ? Parce qu'il y a d'autres phénomènes qui agissent également sur l'activité des phénomènes cycloniques dans l'Atlantique. Et il y a d'autres phénomènes qui viennent contrebalancer, si vous voulez, un petit peu l'effet La Niña. Voilà, bon, mais La Niña a un effet tellement important que, voilà, les conséquences en termes de prévision d'activité, c'est un peu plus actif que la normale.
Alors, on a reçu une question. Alors, c'est une femme qui disait, en fait, souvent, on annonce différents ouragans, différents phénomènes, et on arrive quasiment à rien. Devrait-on s'inquiéter parce que depuis Hugo, on n'a pas eu d'ouragan ?
Bah, tant mieux que depuis Hugo, on n'ait pas eu d'ouragan parce qu'il a été tellement.
Ça inquiète apparemment.
Bon, je n'étais pas là, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Oui. C'était en 89, je crois, et c'était un ouragan majeur de catégorie 4 qui a laissé des traces, je crois, dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu. Donc effectivement, depuis Hugo, il n'y a pas eu d'événements importants. On peut s'en réjouir. Hein. Bon, cela dit, il y a eu quand même des phénomènes cycloniques qui sont passés à proximité,
à
qui ont quand même généré quelques dégâts. Pour rappel, puisqu'on parle de dégâts, quels sont les dégâts que l'on attend avec un phénomène cyclonique? Bon, bien sûr, ce sont les vents forts, hein, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de valeur de vent, c'est ce qui détermine en fait l'état des phénomènes cycloniques. Donc on a des vents très forts qui sont bien sûr dévastateurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des pluies importantes qui peuvent être diluviennes, qui peuvent générer beaucoup de dégâts, des inondations, des glissements de terrain, etc. On peut juste regarder un petit peu l'an dernier, en 2015, il y a eu donc cette tempête tropicale. Ce n'était qu'une tempête tropicale qui s'est appelée Erika, qui est passée effectivement au voisinage de la Guadeloupe, qui a apporté quelques petites conséquences, on va dire mineures. Hein. Par contre, les précipitations étaient un petit peu en retrait du centre du phénomène. Et la Dominique a été confrontée à des précipitations extrêmement importantes. On a relevé, je crois, entre 300 et 400 mm par endroit en Dominique. Il y a eu des dégâts qui ont été dramatiques, avec 30 à 40 victimes, quoi. Voilà, donc les précipitations, c'est également un dégât qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, autre conséquence, alors, un peu moins connue, qu'on oublie un petit peu, et pourtant c'est le phénomène en moyenne qui est le plus dévastateur, c'est celui qui cause en moyenne annuelle sur l'ensemble de la planète, le plus de victimes, c'est la submersion marine.
Mm-hmm.
Alors, la submersion marine qui est effectivement générée par plusieurs choses, puisqu'il y a beaucoup de vent qui accompagne ces phénomènes. Et comme ce sont des phénomènes qui se forment sur l'océan donc Atlantique, il y a donc beaucoup de vagues. Mmh. Beaucoup de vagues qui accompagnent ces phénomènes, qui peuvent arriver à la côte. Et puis, ces vagues, il y a également un effet d'afflux, de la mer à la côte. Donc, hauteur des vagues, afflux d'eau, plus le phénomène également qu'on appelle le baromètre inversé, c'est-à-dire que la phénomène tropicale, c'est une dépression très creuse, donc une pression très faible en son centre, donc ça veut dire que le poids de la colonne d'air, elle est beaucoup plus faible que la normale. La conséquence, c'est que mécaniquement, le niveau de la mer augmente. Donc la conjonction de tout ça fait que on a, dans certains cas, lorsque toutes ces conditions sont réunies, un afflux d'eau qui est extrêmement important, une submersion marine qui peut être extrêmement dévastatrice et générer beaucoup de victimes malheureusement. Mm-hmm. Voilà les trois dégâts dont il faut se méfier de ces phénomènes. Donc pour répondre directement à la question de l'auditrice, donc effectivement depuis Hugo, pas d'événement majeur, quand même des phénomènes qui ont circulé à proximité et qui ont apporté par moment beaucoup de précipitations. J'ai en mémoire quand même des précipitations importantes qui ont été observées, ne serait-ce que sur la côte Caraïbe ou dans d'autres endroits liés à des passages de phénomènes au voisinage en fait de notre archipel.
Mm-hmm. Monsieur Guillaume.
Oui, non, je voulais rajouter, oui, effectivement, il y a eu d'autres cas, d'autres cas. Et puis je voudrais rajouter, statistiquement, plus on s'éloigne du go, plus on s'en rapproche d'un autre.
Voilà. Absolument.
Je pense que c'était ça l'inquiétude, en fait, de l'auditrice. Est-ce qu'on peut dire que souvent, le fait de ne rien voir, ça peut justement générer un certain relâchement au niveau de la population, même quand on annonce, ils ne prennent pas vraiment conscience du danger. Mais vous, monsieur Guillaume, est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer auprès de la population? Est-ce que vous sensibilisez
Oui, tout à fait. La mémoire collective escalée, c'est effectivement plus on s'éloigne du go. Effectivement,
c'est clair.
On a tendance à oublier que quand on est dans un bassin à risque au niveau cyclonique. Mais pareil pour les tremblements de terre. On n'a pas, à part l'événement des Saintes de 2004, qui effectivement demandé aux Saintois, ils vont très bien s'en rappeler. Le reste de la Guadeloupe a plutôt tendance à oublier, mais les Saintois n'oublient pas. Pareil, donc pour ce qui est des tremblements de terre, des cyclones, plus on s'éloigne, plus c'est un vieux phénomène, plus on se dit bon bah c'est bon, on est à l'abri, ça vient plus, ils ne viennent plus sur la Guadeloupe. Mais malheureusement non, c'est pas du tout le cas. On n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien. Et donc oui, donc nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation. Alors il n'y a pas que le SDIS, hein. Il y a enfin bien sûr tous les partenaires, donc oui. La préfecture,
Météo France,
donc ce sont enfin dans leur rôle, chacun dans leur rôle. Et donc oui, pour sensibiliser la population que effectivement le risque cyclonique est là. Nous ne pouvons faire que des prospectives. On ne peut pas affirmer qu'il y aura un cyclone cette année qui passera sur la Guadeloupe, mais il faut s'y préparer. Nous avons la chance maintenant d'avoir des meilleurs outils de communication, puisque tout le monde peut aller sur Internet, donc sur le site de Météo France ou d'autres sites, regarder l'état donc, du bassin atlantique, voir s'il y a des cyclones qui vont se rapprocher ou pas de la Guadeloupe. Il serait dommage d'attendre le dernier moment pour se préparer, d'attendre qu'on passe en vigilance rouge pour ruer vers
les différents supermarchés,
voilà,
et autres,
pour aller faire des provisions. Donc ouais. On vous conseille tous, bien évidemment, parce que ça c'est valable également pour le cas de tremblement de terre,
hein,
toutes ces provisions,
tout
donc en eau, en pile, pour votre radio, c'est valable également pour les tremblements de terre, et lui il prévient pas. Donc autant faire sa petite réserve, donc sa trousse à pharmacie, sa réserve d'eau, sa petite réserve alimentaire, pour toujours avoir son petit coin chez soi où on sait qu'on pourra toujours avoir ça. C'est valable pour les cyclones, c'est valable pour les tremblements de terre. Il faut savoir que la Guadeloupe n'est à l'abri d'aucun risque naturel, à part celui d'avalanche.
Voilà. Il a anticipé, monsieur Guillaume, je voulais vous poser la question. Oui, comment s'y préparer, mais allez-y.
Oui, pour compléter ça, effectivement, chaque saison cyclonique mérite qu'on soit préparé. Tout à l'heure, j'annonçais en fait les prévisions pour 2016.
Oui.
Les prévisions, elles sont annoncées de cette façon-là. À l'inverse, c'est pas parce qu'on prévoit ou anciennement on a prévu une activité inférieure à la normale. Qu'il fallait baisser les bras, si vous voulez, quoi. Hein. L'an dernier, donc 2015, c'était une année qui a été annoncée un peu plus faible que la normale. Elle l'a été, d'ailleurs. Il fallait être prêt. Pour rappel, à 50 km du sud de la Guadeloupe, hein, je rappelle qu'il s'est passé des conséquences extrêmement importantes au niveau de la Dominique. Je crois que là, on l'a un petit peu échappé belle, quoi. Hein. Bon, c'est pas non plus parce qu'on prévoit là, cette année une activité légèrement supérieure à la normale qu'il va forcément y avoir un phénomène cyclonique sur nous. On est incapable d'indiquer des prévisions d'activité cyclonique fiables localement. On est incapable de dire sur la Guadeloupe cette année il y aura tant et tant de phénomènes. Donc ça c'est mission impossible. L'état de la science pour l'instant ne permet pas de le faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement on est confronté au risque cyclonique. Ça peut arriver tous les ans. Tous les ans, même si on annonce une année plus faible que la normale.
C'est une bonne chose d'avoir souligné ce point-là. Alors comment s'y préparer, messieurs ?
Pour s'y préparer, il y a plusieurs méthodes, enfin pas plusieurs méthodes, mais différentes étapes. D'abord, son logement. Préparer son logement, donc c'est dans un premier temps, donc comme l'a signalé monsieur tout à l'heure, un cyclone, c'est des vents, de la pluie et une marée de tempête. Donc il faut pour son logement, il faut le préparer à des vents violents, à de la pluie. Et si vous êtes en bord de mer, ben alors là, pour le marais tempête, je ne sais pas comment vous préparez. Mais bon. Mais en tout cas, donc pour les vents et pour la pluie, bon, éviter donc d'avoir donc soit sur son balcon, soit dans son jardin, des objets qui peuvent servir de missiles, donc s'envoler. Donc tout ce qui est pots de fleurs, les petits jouets des enfants qui traînent ou autres, il faut s'arranger pour tout ranger. Pour ce qui est donc, pour éviter que donc effectivement ça puisse servir de missile et donc aller soit frapper quelqu'un ou une vitre. Ensuite, donc toujours pour ce qui est du logement, ben, s'il y a des renforts à faire au niveau donc des baies vitrées, de tout ce qui est fenêtres, si vous avez des volets, ben, c'est tant mieux. Bon, si vous n'en avez pas, essayé donc de préparer quelque chose. Mm-hmm. Et puis bon, auparavant, on renforçait les toitures, enfin les tôles, en mettant des parpaings dessus.
Ou du sable.
Du sable, non, le sable risque de s'envoler, mais je veux dire...
Oui, j'ai vu ça, moi.
Moi, je voyais beaucoup de parpaings sur les tôles, mais bon, c'est plutôt vérifier que tout soit bien vissé et fixé, quoi.
Ah, vous dites non pour les parpaings ou pas ? On peut ?
Bah, c'est toute une question de portance. Moi, je peux pas. C'est au cas particulier, quoi. Mais bon, avec des vents très importants, si une tôle n'est pas fixée, c'est pas en mettant des parpaings dessus qu'elle va rester à sa place. Mm-hmm. Donc, il faut surtout s'arranger pour que tout soit bien fixé. Mm-hmm. Ensuite, au niveau de la famille, donc pour se préparer, bah, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, préparer une trousse à pharmacie, avoir ses réserves.
Voilà.
Ça c'est pour sa famille, enfin pour les proches, mais aussi donc toujours se renseigner sur les voisins, sur les personnes âgées à proximité ou de sa famille. Est-ce qu'ils ont pu préparer leur logement? Est-ce qu'ils sont à l'abri? Il faut savoir qu'il existe des abris sûrs qui sont référencés
tout
par les
fait.
Communes, mm-hmm. donc dont la liste est disponible dans chaque commune. Si on n'est pas sûr que son logement puisse résister au passage d'un cyclone, plutôt se rapprocher d'un abri sûr. Mm-hmm. Donc il existe tout cela, et ne pas oublier que bon, ben voilà, il y a différentes manières. Se rapprocher de sa mairie pour connaître la liste des abris sûrs et savoir où vous pourriez vous réfugier en cas de passage de cyclone.
Mm-hmm. Monsieur voilà. Muzulek, vous désirez rajouter quelque chose ?
Oui, et puis également une façon d'être prêt, c'est de savoir qu'un phénomène existe. Alors pour savoir qu'un phénomène existe ou présente une certaine menace, il faut se tenir informé oui. de l'évolution de l'évolution météorologique. Alors pour ça, effectivement, on a toute une différents produits de prévision qui existent. Donc depuis le début de la saison cyclonique, c'est-à-dire depuis le 1er juin, on réalise ce qu'on appelle un bulletin d'information cyclonique tous les jours. Alors, qui est disponible sur notre site internet, météofrance.gp. Donc, il y a une rubrique cyclone qui est dédiée en fait à toute l'information en matière d'activité cyclonique. Donc, tous les jours, on indique s'il y a sur le bassin atlantique un phénomène qui existe ou une menace. Alors, dès qu'une menace est avérée, c'est-à-dire que dès qu'un phénomène s'est formé, et dès que le phénomène a atteint donc le stade de tempête tropicale, stade défini par donc le centre de Miami, il y a des trajectoires de cyclones qui mmh. sont élaborées. Alors, ces trajectoires de cyclones sont également disponibles sur notre site. Et puis lorsque la menace se confirme avec une échéance de 72 heures, comme je vous disais tout à l'heure, on procède à donc la mise en place de notre procédure de vigilance avec donc le premier niveau jaune. Mmh. Et cette procédure de vigilance enrichit les produits que l'on est amené à réaliser en matière d'information météorologique. Donc on a effectivement ce qu'on appelle des bulletins de suivi qui viennent apporter un complément d'information au phénomène qui commence à présenter une menace.
D'accord. Monsieur Guillaume ?
Oui,
on a fait le point, d'accord.
On a fait le point.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour, messieurs ?
Alors moi, je voulais peut-être rajouter une chose sur oui. les différentes phases de la vigilance. Mm-hmm. Donc, on vous a rappelé qu'il y avait la vigilance grise, enfin qui était donc après le passage, enfin de l'ouragan, passé en phase grise. Donc qui est la phase justement donc où la remontée d'informations donc remonte sur le COD et où on demande donc aux gens de continuer à rester chez eux parce que le cyclone a quitté la Guadeloupe, mais il y a une phase de reconnaissance à faire. Donc de bien faire attention à cette phase, c'est une phase délicate où il faut justement laisser le temps. Donc le plus souvent, enfin, si ça se passe de nuit, il n'y a pas de souci, mais c'est de jour, de laisser le temps au secours, aux forces de l'ordre et autres, hein, tous les acteurs publics, de faire l'état des lieux, d'aller sur le terrain pour qu'on puisse apporter le meilleur soutien possible à la population à l'issue du passage du cyclone. Voilà, c'est parce que c'est une phase qui est importante.
C'est vrai qu'il y a des gens, des touristes ou encore des gens du pays, du département, qui sont vraiment subjugués, touchés de voir effectivement autant de vent et des fois sortent, prennent des risques, je veux dire, inutiles. Ah oui. Que dire à ces personnes ?
Écoutez, on fait le maximum pour sensibiliser donc, ouais, la population, pour leur dire effectivement... N'approchez pas des côtes lorsqu'il y a une houle, une très forte houle, une marée de tempête. C'est à ce moment-là qu'ils vont tous à la pointe des châteaux pour regarder quelle est la force des vagues. Mais bon, malheureusement, non, on fait le maximum. Maintenant, les gens ont un devoir civique. Ouais. C'est à eux d'écouter, s'ils tiennent à leur vie, effectivement, de faire attention et d'écouter ce qu'on leur dit.
Mm-hmm. Il ne reste que 10 minutes, donc je vais profiter pour vous poser ces questions-là, vous concernant. D'où vient votre passion, M. Musulek ? Ça fait combien d'années que vous êtes au niveau de Météo France ? Oui, oh là là !
Ça fait maintenant très longtemps.
Très longtemps.
De longues années. D'où vient ma passion ? Écoutez, moi j'ai... Ma passion, c'est la navigation, c'est la voile.
Vous en faites ?
Oui, j'en fais.
Ouais.
J'en fais et j'en fais beaucoup depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, parce que il y a un terrain de jeu qui est magnifique ici. Donc j'en profite donc énormément. Et c'est vrai que quand j'étais étudiant et que était arrivé le temps, il fallait faire le choix d'un métier. Ben je me suis demandé quel métier pourrait me rendre des services dans ma passion. Et à l'époque, je ne connaissais rien à la météo et je m'étais dit que la météo, c'était quand même une composante essentielle pour naviguer en toute sécurité. Et puis, voilà, et donc c'est comme ça que j'ai passé le concours de la météorologie et que je suis maintenant à ce poste.
Depuis de très longues années.
Depuis de très longues années.
lieutenant-colonel, oui. Idem, votre passion, c'est dû à quoi ?
Le thème s'y tient bien aujourd'hui, puisque en fait c'était au passage d'un cyclone. effectivement, donc à l'issue du passage d'un cyclone, en fait, il y a 20 ans de cela. Donc c'était Marilyn. Cyclone Marilyn en 95, je crois, 95 ou 96, je ne sais plus, 95. Donc cyclone Marilyn, je faisais mon service national donc ici, j'ai été amené donc en tant que qu'appelé à aller sur le terrain et donc à venir en aide à la population, et c'est là que j'ai pu croiser donc mes futurs collègues sapeurs-pompiers et voir donc en fait les voir à l'œuvre, et donc ça a commencé à me donner la passion. Mais j'avais déjà fini mes études donc, à l'issue. Donc en fonction de mes études, j'ai essayé donc de voir ce que je pouvais faire, et donc je suis d'abord rentré sapeur-pompier et ensuite j'ai passé les concours pour devenir donc d'abord sapeur-pompier volontaire, donc d'ailleurs
voilà, justement on va profiter,
donc je suis d'abord rentré sapeur-pompier volontaire,
voilà,
ensuite professionnel, puis maintenant officier. Mais donc oui, je voulais donc rappeler que donc sapeur-pompier donc les sapeurs-pompiers, donc c'est un corps de professionnels et de volontaires. Les volontaires, donc ce sont donc des ça peut être n'importe qui. Qui veut donner un peu de son temps à la collectivité pour venir en aide à la population, et donc qui peut devenir donc sapeur-pompier volontaire. Pour cela, il suffit de se rapprocher donc du centre le plus proche de chez vous afin de prendre les renseignements et de vous inscrire sur la liste, et à l'issue, dès qu'on fera un nouveau recrutement, on vous contactera.
D'accord. L'âge requis minimum ?
16 ans.
16 ans.
16 ans avec l'accord des parents, par contre.
D'accord. J'ai cru comprendre que les 12 ans pouvaient y aller, dès 12 ans.
Non, 12 ans, d'accord. Ce sont les JSP. Donc les jeunes sapeurs-pompiers. Non, là, c'est quelque chose d'autre. Donc les jeunes sapeurs-pompiers, donc, ce sont des jeunes entre 12 et 16 ans. donc qui le week-end donc font des formations pour donc tout ce qui est autour donc des sapeurs-pompiers. Ils apprennent le métier mais en venant le week-end et à l'issue donc de ces 4 ans, ils passent un examen, donc l'examen et ils ont un diplôme. Ceux qui réussissent ont donc le diplôme de jeune sapeur-pompier, et donc à l'âge de 16 ans ils peuvent directement intégrer le corps de sapeurs-pompiers en tant que sapeurs-pompiers volontaires et sans avoir à passer de formation, puisqu'ils auront, pendant ces 4 ans, ils auront passé tous les examens nécessaires. Tous les ans, donc il y a des sélections qui sont faites pour recruter donc des jeunes sapeurs-pompiers. On a 30 jeunes sapeurs-pompiers qui sont recrutés au niveau du département par an. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 4 années, en fait. Il y a 4 niveaux. Donc on en recrute 30 par an. Donc 15 qui sont formés sur la Grande Terre et 15 qui sont formés sur la Basse Terre.
Mmh. Très bien. Très bien.
Donc la sélection pour l'année 2016 a déjà été faite et donc les lauréats ont déjà été sélectionnés.
Voilà.
Ils commenceront en septembre.
Voilà, félicitations. Voilà. Mais on va s'arrêter ici. Je vais abuser de vous jusqu'au bout, messieurs. Durant toute votre carrière, monsieur Muzelec, y a-t-il un phénomène qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus passionné ?
J'ai déjà une autre expérience tropicale avant mon passage guadeloupéen. Hein. J'ai travaillé 4 ans en Nouvelle-Calédonie entre 2005 et 2009. Mm-hmm. Donc là aussi, c'est un phénomène qui peut être confronté à des phénomènes tropicaux. Hein. Je n'ai pas connu de phénomènes tropicaux en Calédonie. Pour l'instant, je n'en ai pas connu. Je veux surtout pas dire que je souhaite en vivre un. Je ne le souhaite à personne. Je pense que ça doit être une expérience extrêmement enrichissante professionnellement parlant. Mais compte tenu en fait des dégâts, mm-hmm. Des dégâts bien sûr que ça provoque, je préfère ne pas en vivre, ne pas en être confronté directement. Ce qui m'intéressait, je vous parlais tout à l'heure de ma passion pour la voile.
Oui.
En montant, on va dire, spécialisé en météo marine, c'est un petit peu normal.
On n'est pas étonné.
Et donc, j'ai été amené également à faire du routage pour des coureurs professionnels. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a fortement intéressé et qui m'a marqué. Donc voilà, ça peut être effectivement quelque chose qui m'a profondément marqué. Oui.
Mm-hmm. Monsieur Guillaume, on finit avec vous. Une chose qui vous a marqué durant votre carrière en tant que lieutenant-colonel ?
Oui, bah alors à l'époque j'étais pas lieutenant-colonel, mais la chose qui m'a le plus marqué, malheureusement, c'est pas passé en Guadeloupe, c'est le tremblement de terre d'Haïti.
Ah.
Donc ça m'a marqué déjà d'une part par rapport à la solidarité, l'élan de solidarité qu'il y a eu ici en Guadeloupe pour l'Haïti, et puis ensuite parce que je suis parti en Haïti, pas sur le premier départ, mais par la suite. Mm-hmm. J'y suis allé donc quelques mois après pour faire des actions toujours pour les sapeurs-pompiers et pour le ministère des Affaires étrangères françaises. Et oui, effectivement, professionnellement, ça m'avait beaucoup marqué. J'y suis allé plusieurs fois, enfin, à l'issue, et c'est quelque chose qui a été, qui m'a marqué.
Voilà, bon, vous remercie, messieurs. Merci d'être là pour nous, pour la population guadeloupéenne. Nous avions la joie d'avoir monsieur Muzelec de la Météo France et monsieur Bouidé Guillaume, lieutenant-colonel au niveau du S10. Merci pleinement à vous, messieurs.
Merci.
Et on se dit à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Yeah. FBMO. Yeah.